Bien, alors, disons que c'est un outil qui est à la disposition des spécialistes. C'est un outil philosophique à la disposition des spécialistes des sciences, des différentes disciplines scientifiques ou parascientifiques. Je m'explique. Quand vous avez un problème scientifique, on cherche des lois de la physique, par exemple, ou des lois de la médecine, dans tout autre domaine. Bon. Ces lois s'appliquent dans un champ déterminé. L'expérience des sciences montre que ces lois qui sont valables dans un champ sont toujours précaires, irrévocables, elles sont toujours approximatives. En d'autres termes, aux limites du champ, ça pose des problèmes pour les extrapoler. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, la physique de Newton cesse d'être valable. Bon, d'où Einstein. Et même Einstein, sa relativité, maintenant, dans le champ où elle a été conçue, elle est vivement controversée et elle implique d'autres données qu'elle n'intègre pas. Bien. Alors, quand vous avez un champ, par conséquent, un champ déterminé ou un champ macroscopique, enfin un champ de la science macroscopique, par exemple, la méthode de la structure absolue consiste à extrapoler, aller au-delà pour voir ce que ça donne au-delà des limites de ce champ. Encore faut-il connaître le champ. Il faut que le champ dans lequel vous travaillez soit pertinent. Alors le champ de la physique classique, de la physique macroscopique, newtonienne, galiléenne, on voit ce que c'est, n'est-ce pas bien? On a les instruments de mesure qu'il faut, mais avec un certain nombre de présupposés, que les mesures d'espace, de temps et de masse soient indépendantes. Dans la physique newtonienne, l'espace et le temps, ce sont deux choses entièrement différentes. Chez Einstein, au contraire, n'est-ce pas? Il y a une relation qui les unit. Il parle de l'espace-temps, du continuum espace-temps. Bon, prenons la physique newtonienne. Dans le champ de la physique newtonienne, pendant 3 siècles, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait des difficultés. À partir du milieu du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, on s'est aperçu que cette physique-là, la notion de loi, telle que la physique newtonienne l'établissait, était une notion critiquable, une notion qui ne satisfaisait pas, qui satisfaisait une certaine logique, mais qui n'allait pas au-delà. Alors, étant donné un champ déterminé, on se pose la question des couples d'opposition de ce champ. Par exemple, je prends le problème de la politique, le problème des sciences sociales, de la constitution des fonctions sociales, des fonctions sociales. Et voilà un champ qui est en pleine évolution. Vous avez les théories, vous avez les pratiques capitalistes, les théories socialistes, vous avez toutes les économies ou les régimes intermédiaires, tout ça s'engraine, bouge, évolue, etc. Pour étudier un problème comme ça d'une façon objective, il faut d'abord faire de la politique, après il faut être intéressé et compétent dans ce domaine-là, bien sûr. En d'autres termes, l'outil est un outil qui est polyvalent, il est valable pour la politique comme il est valable pour la physique. Il faut d'abord trouver les couples d'opposition de base, autrement dit, il faut mettre en croix. La méthode consiste à trouver la croix de base, donc à savoir nommer les pôles. Nommer les pôles.
C'est-à-dire qu'on prend les deux opposés, les
deux points,
et ensuite
deux
on voit
couples
l'opposé à
d'opposition. Et
l'intérieur
ensuite on les fera tourner, mais il faut d'abord les nommer les pôles, il faut savoir les nommer. Donc ça implique une science acquise, une connaissance acquise. Si vous n'avez jamais fait de politique ou d'économie politique, vous n'aurez pas l'idée par exemple, d'opposer la production et la consommation. C'est banal, mais enfin ça, vous aurez cette idée peut-être, mais et après, bon, production, consommation. Mais l'idée, c'est qu'il faut sortir de ce couple d'opposition unique, il faut en trouver un second. Il faut en trouver un second. Et alors c'est ça le problème que les théoriciens ne font pas. Il faut trouver le second couple qui va se croiser sur le premier pour le mettre en mouvement, pour le rendre dynamique. Et le second couple, ben, c'est la gestion d'une part, ou l'administration qui est conservatrice, n'est-ce pas, qui obéit à des règles précises, et puis la découverte d'innovation, d'invention, qui a des dynamiques. Comprenez-vous? Alors, ces deux couples-là, vous allez faire tourner les pôles dans tous les sens, et vous allez avoir un axe vertical, et vos sociétés vont bouger. Or, si vous avez une société à prédominance productiviste, vous avez le capitalisme, à prédominance distributive, enfin consommation, vous avez le socialisme, Mais ça, ce sont des économies, mais ça, c'est la situation théoriquement idéale de départ, n'est-ce pas? Mais bien entendu, vous allez avoir toutes les sociétés mixtes possibles. Et si vous donnez la prédominance à la gestion, vous allez avoir des économies conservatrices et figées. Si vous donnez la prééminence à l'invention, vous allez tendre vers une économie, au contraire, en pleine anarchie, etc., etc., n'est-ce pas bien? Vous voyez que, je passe très vite, mais parce que ça, je l'ai étudié, vous comprenez, je ne vous donne que des résultats. Si vous faites toutes les combinaisons possibles, vous en tournez dans tous les sens, en prenant chaque pôle tour à tour comme originaire, car il n'y a aucune raison de privilégier tel pôle plutôt que tel autre, vous apercevez que vous avez 64 combinaisons, comme dans le Viking des Chinois. Alors, l'idée, justement, c'est qu'il y a une profonde parenté dans ce système opératoire avec le système opératoire du Viking.